RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui, Barbara Lefebvre, Charles Consigny et Bruno Pomard. Notre GG, c'était match tout à l'heure à 11h20. Est-ce qu'il faut aller vers une dissolution de l'Assemblée nationale? Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit non, les Français n'en veulent pas, c'est pas parce qu'on a sorti le 49-3 quatre fois, que ça tangue à l'Assemblée nationale qu'il faut dissoudre. Or, au Rassemblement national et à la France insoumise, on est plutôt prêt à repartir en campagne. Bah, et vous, qu'en dites-vous? Est-ce qu'il faut dissoudre, oui ou non? Oui pour Barbara et Olivier, non pour Charles et Bruno, on en parle à 11h20. En attendant, on y va pour le à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir, on vous a proposé deux sujets de discussion, les amis. Le chèque énergie fuel qui est versé à partir d'aujourd'hui, ou bien l'allemand en voie de disparition à l'école. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Le sujet que vous avez choisi, c'est l'allemand en voie de disparition à l'école. Est-ce inquiétant? Quand on regarde aujourd'hui le nombre de professeurs d'allemand qui vont arriver dans les classes, on se rend compte qu'il y en a de moins en moins.
Ich bin malade. Warum nicht? Ich habe nicht. Majesté, das ist eine kolossale Konspiration.
99 Luftballons, ihren Weg zum Horizont, hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General Fliegerstaffeln?
Chance. La situation est grave, l'allemand envoie, je sais que c'est 99 ballons, voilà, ça c'est une certitude, c'est le titre de la chanson. Entre 2006 et 2021, le nombre d'enseignants d'allemand a été divisé par deux.
Oui, si on donne les chiffres, hein, en 2021, seulement 147 000 élèves choisissaient l'allemand comme première langue. Ils étaient plus de 600 000 en 95. L'allemand est la discipline la plus touchée par le manque de professeurs. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, va se rendre à Berlin. Et alors là, tout va changer.
Berlin.
Oui, pour Berlin, pour essayer de trouver des solutions et renforcer l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne, parce que effectivement, ça marche dans les deux sens. Et le directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, un certain Patrick Brammeyer, dit, il y a des moments dans la vie d'une entreprise, lors d'une crise ou d'un rachat d'entreprise, où c'est décisif de parler la langue de l'autre. Or, il faut rappeler que l'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France. Donc, il dit aux jeunes, si vous voulez du boulot, parlez allemand, c'est quasiment la garantie de trouver un emploi. C'est vrai qu'avant, pour notre génération, faire allemand, c'était accéder aux meilleures classes. Hein. Tu choisissais en quatrième, parce qu'en quatrième, tu choisissais une deuxième langue. Tu choisissais allemand et tu pouvais même rajouter le latin. Et tu étais sûr ensuite d'être formaté pour aller en ce qu'on appelait la S à l'époque, etc. Voilà. Bon, et maintenant, c'est terminé tout ça. L'allemand, c'est rédhibitoire. Les mômes ne veulent plus faire d'allemand et les parents n'encouragent plus l'allemand.
Mais parce que tu as tout dit. Parce que l'allemand n'était pas pris comme langue pour la beauté de la langue, pour la question de la culture, encore moins pour aller faire du business en Allemagne. Il faut arrêter la blague, tout le monde parle anglais, n'importe quoi.
Bien sûr.
On va faire du business avec les Chinois, on va se mettre tous à parler chinois, il faut arrêter la rigolade.
Non mais tout le monde parle anglais.
Bon, voilà, le business dans le monde, si tu veux faire du commerce, du marketing, tu fais de l'anglais. Donc l'allemand était choisi, comme tu l'as dit, pour une filière d'excellence. Comme aujourd'hui, je crois que l'excellence n'existe plus de toute façon, les filières d'excellence non plus.
Non.
Les classes européennes, muerta, hein, c'est Madame Najat Vallaud-Belkacem qui les a tuées et Monsieur Blanquer qui leur a mis le coup de grâce. Donc de toute façon, ça n'existe plus. Je ne vois absolument pas tout ce délire sur la question. Moi, je regrette.
L'allemand qui est une langue pas facile à apprendre.
Mais moi, je regrette. Et en plus, non seulement c'est pas facile à apprendre, mais je ne vais pas partir dans les détails sur la réforme de l'enseignement des langues qui a été fait aussi sous Najat Vallaud-Belkacem. Demandez à tous mes collègues de langue, que ce soit de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, comment aujourd'hui on leur demande d'apprendre la langue. C'est hallucinant. Tu dois plus faire de grammaire. Aujourd'hui, apprendre le cours d'allemand.
Si tu fais l'allemand sans grammaire, c'est compliqué. Voilà. Parce que c'est beaucoup
voilà.
De grammaire.
Donc, demande aux profs d'allemand. Moi, j'ai des collègues d'allemand qui s'arrachent les cheveux, des collègues d'anglais aussi, hein, parce que tu ne dois surtout pas faire trop de grammaire, pas trop de déclinaisons. Non, parce que tout ça, ça ne donne pas l'envie, le goût de la langue aux enfants. Il faut tout de suite qu'ils fassent de l'oral et des espèces de dialogues à deux balles qui veulent rien dire.
Donc, c'est pas surprenant. En fait, on a tout fait.
Mais c'est pas surprenant. On a tout fait pierre par pierre. Bah, c'est embêtant.
Et
parce
comment
que moi
c'est dans
je
les manuels d'allemand? Parce qu'en anglais, c'est Brian is in the kitchen.
Bah, je suis pas
alors
germaniste.
C'est quoi,
alors,
j'ai
pas
Helmut is in the kitchen.
J'en sais rien.
C'est Roddy Pfeiffer. Moi, je me souviens, ma première leçon d'allemand, c'est Die Vater Roddy Pfeiffer.
Bah, toi, mon cher, tu as fait de la grammaire. Toi, tu as fait de la grammaire.
Ouais.
Aujourd'hui, tu commences à faire de la grammaire en troisième ou en
moi,
seconde.
C'est un souvenir douloureux pour moi,
et
l'allemand.
Et encore, même en seconde, ouais. Tu fais pas vraiment des cours de grammaire. Va apprendre l'allemand.
Franchement, Barbara, dur, ça sert à rien.
Juste une question.
Pourquoi ça, attends, ça sert à rien.
Attends, il dit ça sert à rien. On le voit dans les sondages. Il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire, des jeunes. Il y a de moins en moins de profs.
Donc il faut supprimer.
On supprime. Qu'on apprenne à parler anglais parce que c'est la langue internationale et qu'on apprenne surtout à bien parler français. Voilà la vraie.
Mais Bruno,
c'est pas seconde langue, toi.
Ouais, non. Ça montre qu'on a progressé en France. Avant, essayer d'apprendre l'allemand, maintenant on essaie d'apprendre le français.
Oui, non, mais on en arrive à ça, bien sûr. Mais tu rigoles pas, j'espère.
C'est-à-dire l'excellence, c'est savoir parler français.
Mais à la limite, l'espagnol est la deuxième langue qui se parle dans le monde après l'anglais, vaut mieux faire l'espagnol. Mais même l'anglais, le niveau d'anglais qu'apprennent nos gamins, c'est catastrophique. Pourquoi tu as des gamins qu'on inscrit dans des espèces d'examens de fin d'année, de fin de cycle, comme les Cambridge, les tests Cambridge? Parce que c'est ce qui te prépare pour avoir des niveaux de langue pour faire des études à l'université ou dans des universités anglaises. Ouais.
Alain, je me souviens de Brigitte Haben Sie deine Brille. Brigitte, est-ce que vous avez vos lunettes?
Voilà. Utile. Et on comprend pourquoi l'allemand a disparu.
Mais non, mais sérieux, il faut être pragmatique.
J'en ai fait 5 ans. Il me reste pas grand-chose.
Mais moi non plus. Et c'est pas facile, souviens-toi.
Non, l'allemand, en plus, c'était très inspiré du latin. C'est-à-dire, tu avais le verbe qui était à la
main.
Tu avais les déclinaisons.
Mais tu n'apprends plus les déclinaisons aujourd'hui.
La prononciation est pas simple.
Oui, anglais, ouais, moi.
Mais voilà. Tu parles anglais, vous parlez tous anglais.
Pourquoi? Parce que l'anglais, tu le pratiques. Et si tu le pratiques pas, tu regardes des films en anglais sous-titrés. Tu as de la musique américaine, donc
moi, je pense qu'il faut apprendre une seconde langue, bien sûr. Enfant, t'es une éponge, c'est là où il faut apprendre
C'est difficile,
adulte, d'apprendre une langue.
C'est une question de culture, Bruno, c'est une question de culture aussi. Oui, tu peux t'intéresser à une langue pour la culture aussi, c'est pas uniquement pour son côté pratique.
Ben oui, à un moment donné, la société a besoin de...
Dans l'Aude, l'allemand...
Mais dans l'Aude, déjà,
c'est un vieux souvenir.
Mais il parle pas français là-bas.
Je t'en prie, Charles,
t'as fait quoi comme seconde langue?
Tu peux parler catalan, tu peux parler aussi.
Mais
t'avais pris quoi, espagnol, toi?
Moi, j'ai appris espagnol comme tous les cancres.
Ouais, c'est ça.
Je détestais l'espagnol.
Côté espagnol, là.
Ah, mais me gusta,
j'adore l'espagnol.
C'est insupportable.
Moi, j'ai même passé ça en première langue au bac.
L'espagnol? Tu parles espagnol?
Oui, je le parle pas aussi bien que l'anglais parce que je le pratique moins, mais je comprends très bien l'espagnol et je le lis. Mais je le pratique pas parce qu'encore une fois, on baigne pas dans un bain culturel hispanique ou germanique. On baigne dans la culture anglo-saxonne.
Ben voilà, donc tout est dit. Tout est dit.
Mais non, mais ça n'empêche pas par culture
Bruno, je comprends
et par
pas ce
intérêt.
Que tu dis,
parce que vous êtes dans l'intellect, vous, là, toujours à chercher.
Excuse-moi, l'école, c'est pas uniquement faire une journée du travail.
L'école, c'est pour apprendre.
T'apprends le français et l'anglais. Mais en fait, c'est simple.
Mais l'école, c'est pas uniquement pour avoir un travail.
Mais quand tu vois le niveau scolaire des gosses maintenant, vous parlez d'anglais, d'espagnol.
Mais c'est pas à cause de ça que le niveau scolaire est
également. L'histoire géo aussi, ça sert à rien alors.
Non.
Ça sert à rien, l'histoire géo.
Je suis pas d'accord,
je parle pas de ça.
Avant,
ça sert à rien.
Nos parents, nos grands-parents apprenaient même du latin et du grec. Donc c'est pas une question de et non, on l'a laissé abandonner.
C'est très important.
C'est l'école utilitariste qui.
Mais oui, mais bien sûr, mais t'as raison. Tu as vu le niveau de français des gamins. Moi, j'ai côtoyé toute l'année des gamins des quartiers.
Mais c'est pas à cause de l'allemand, ça.
Mais non, mais ça.
En 1950, il y avait de l'allemand en classe, on parlait mieux français.
Je te dis simplement qu'il faut donner des priorités à notre jeunesse.
Non, mais là,
laisser parler français et anglais, c'est déjà une belle chose.
C'est un renoncement. Tu es dans le renoncement, tu penses que la France ne peut plus avoir l'ambition d'instruire ses élèves d'une manière correcte. Moi, je suis pour une école de l'excellence.
Oui, ça y est.
Vas-y. Je suis pour une école de l'excellence, donc il faut apprendre en effet l'allemand, le latin, le grec.
Ça, c'est la bien-pensance.
L'histoire. Oui, mais c'est pas de la bien-pensance, c'est essayer de pas être con, excuse-moi. Ouais, c'est pas de la bien-pensance.
Arrêtez. Mais dans ce cas-là, mais fais pas d'histoire. Tu dis, l'histoire, ça sert à rien.
Mais je vous parle pas d'histoire, on parle de géographie.
Mais ça sert à rien, l'histoire, Bruno. Non, dans la vie, ça sert à rien. Est-ce que je m'en sers tous les jours, moi, de ce que j'ai appris sur le Moyen-Âge?
Les maths, ça sert à rien.
Mais le côté pratico-pratique, c'est essentiel. Moi, je vous dis, je vois des jeunes.
Faire quoi?
Je vois des jeunes toute la journée, toute l'année. Je sais pas si ça t'arrive souvent.
Je sais pas si ça leur rend service.
Déjà, qu'on les apprenne.
Tu vois des gens qui font mieux de voir des Allemands.
Des remises à niveau de français et peut-être d'anglais pour certains. Mais je peux t'assurer que quand je vois le niveau des gamins que je côtoie, excuse-moi, c'est que vous êtes dans un autre monde.
C'est parce qu'on a renoncé.
Mais c'est pas de la faute des profs d'allemand. C'est de la faute de l'éducation nationale.
Parce que nous avons un prof d'allemand.
Avoir un peu d'excellence, avoir un peu d'exigence en fait.
Nous avons un prof d'allemand avec nous, c'est Laurent qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, Guten Tag, mon cher
Guten Tag.
Laurent. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce que c'est dramatique qu'on ait de moins en moins de profs d'allemand et qu'on enseigne de moins en moins l'allemand à l'école?
Oui, c'est sûr. Je voudrais juste revenir comme introduction par rapport à ce qu'a dit Bruno, je crois, sans vouloir m'opposer à lui. Je comprends ce qu'il dit et toutes les matières sont liées. Moi, aujourd'hui, en tant que prof d'allemand, on souffre de la faiblesse des élèves en français. Parce que quand vous voulez leur expliquer une règle de grammaire, ils la connaissent déjà pas en français. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi aussi, au début que j'ai commencé, j'ai baissé mes exigences en pensant que ça résoudrait le problème. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que moins on leur en apprend, et moins ils en apprennent.
Oui.
Que la seule moyen d'élever les élèves, j'entendais ce qu'ils disaient sur l'anglais, c'est tout à fait vrai. Moi, les élèves qui prennent allemand, souvent, s'améliorent en anglais. Parce que tout est lié. Et plus vous en apprenez, aujourd'hui, les langues, il faudrait les apprendre encore plus tôt. Plus vous les apprenez tôt, et meilleur vous
Laurent,
êtes.
Bien sûr. Mais Laurent, vous dites que vous avez baissé vos ambitions. Les programmes scolaires vous ont bien aidé, non?
Oui, ça c'est vrai aussi.
Voilà.
Mais alors, les programmes scolaires, on les applique jusqu'à temps où on ne peut plus les appliquer. Hein.
Oui, mais si vous faites de la grammaire et trop de grammaire, vous vous faites taper sur les doigts par votre inspectrice ou inspecteur.
Ah, si je fais trop de grammaire, oui, bien sûr, on a
plus
rien à faire aujourd'hui.
C'est quasiment. Pareil pour les profs de français. On se fait trop taper sur les doigts si on fait des dictées.
Mais vos élèves, Laurent, vos élèves, je suppose qu'ils prennent l'allemand, parlent déjà, et vous l'avez dit tout à l'heure, bien le français, sont déjà faciles de la langue française, au même titre d'ailleurs que l'anglais.
Pas forcément, hein, pas forcément. Moi, alors, un de mes grands chevaux de bataille, c'est justement de. Moi, j'en ai marre de cette image de l'allemand, c'est pour les bons élèves. Aujourd'hui, l'allemand, il y a plein de gens qui parlent allemand et qui ne sont pas plus intelligents que les autres. C'est faux, c'est une langue qui...
Oui, mais Laurent, reconnaissez que... Oui, mais Laurent reconnaissait que c'était ça. Hein. Enfin, pour ma génération, oui. On faisait allemand parce qu'on était dans la filière un peu d'excellence.
Mais
je suis d'accord, mais moi, je me bats contre ça. Hein. Moi, j'en veux pas de ces élèves-là. Enfin, si, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour de nouveau donner envie aux mômes et à leurs parents, parce que les parents choisissent aussi de faire allemand. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que Papendia, il va à Berlin, mais est-ce que c'est suffisant?
Bardella, il parle bien français pour un officier allemand.
Papendia, il va où il veut.
Non, Charles, non.
Alors, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, alors, il y a deux choses.
Allez-y, oui.
Si aujourd'hui, je ne faisais pas d'initiation en CM2 pour les classes bilingues ou en 6e, je vais vous dire, je travaille dans un établissement où ça n'a pas été fait pendant 2 ans. J'ai des effectifs déplorables. Mais on est obligé de faire de l'initiation, donc un peu de payer sa personne. Donc ça, c'est une des choses qui doit être amplifiée. Et l'autre chose, moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui dans l'OFAGE, l'organisme franco-allemand pour la jeunesse, que dans des décisions de fonctionnaires qui sont complètement déconnectés. Enfin, une dame, excusez-moi, j'ai pas les prénoms, mais
Barbara.
Barbara qui parlait aujourd'hui.
Barbara. Franck Lefebvre.
Qu'est-ce que vous disiez?
Oui, que vous parliez des programmes et qui ont effectivement baissé. Aujourd'hui, on a des décisions qui sont certes. Sont déconnectés de la part de...
Ah oui, c'est par des inspecteurs qui n'ont jamais vu une classe ou qui n'en ont pas vu depuis 20 ans, donc forcément, c'est des théoriciens de l'enseignement.
Est-ce qu'il faut mieux vous payer? Parce que parmi les mesures que Papendieke pourrait prendre, c'est de payer un peu plus les profs d'allemand pour vous donner envie d'être prof d'allemand.
Ah non, on va être bien vu dans les salles des profs.
Mais ils sont déjà... Ils ont
attends,
envie,
tu sais le sort qui est fait à nos collègues de musique et d'art plastique qui sont sous-payés. À ce moment-là, il faut les surpayer parce que je peux te dire, la sous-culture musicale et la sous-culture artistique de nos élèves, elle est en grande partie due justement au mépris que l'institution a pour ces
disciplines. Ils écoutent tout du rap en même temps.
Ils sont très importants.
Merci, merci Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée, Laurent. Merci d'avoir apporté votre expérience dans cette discussion qu'on aura eue dans les GG. Dans les grandes gueules, on a posé la question là sur le petit quart d'heure de discussion qu'on a. L'allemand qui est en voie de disparition, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? C'est un non. Ça, c'est des gens qui ont des mauvais souvenirs, à mon avis.
On va enterrer l'allemand
à l'école. Je pense que Papendia, il n'y a pas besoin d'aller à Berlin. Il peut rester à Paris. Il y a fort à faire en France déjà.
C'est un nein, donc à 60%. On va accueillir le gagnant du jeu, les amis. On va rester dans la Drôme. C'est Brahim. Bonjour, Brahim.
Bonjour Alain.
Alors Brahim, vous avez envoyé coffre par SMS au 732-16. Vous avez donc été tiré au sort. Et là,
ça fait plaisir.
Alors,
merci,
mon cher Brahim,
compris la mécanique du jeu.
Oui, alors, ça c'est encore
attention. Déjà, ça c'est bien.
C'est le premier
déjà,
cadeau.
Déjà, là, vous faites allemand, non? Parce que il fallait faire allemand pour comprendre la mécanique du jeu RMC.
Alors, mon cher Brahim, vous gagnez l'enceinte Marshall Woburn 3.
Super.
Voilà.
Fabriqué par Alain Marshall.
Ça, c'est cool,
lui-même.
Ça. C'est les meilleurs.
Ah ouais, c'est un son canon en plus, c'est fort connu. Alors, et là maintenant.
Pas ça, il va pas vouloir jouer.
Les Stones jouaient avec ça d'ailleurs. Pardon.
Mon cher Brahim, maintenant, c'est l'heure du choix. Est-ce que vous restez sur l'enceinte ou est-ce que vous laissez tomber l'enceinte et vous me dites, on ouvre le coffre et il y a peut-être le super cadeau foot dans le coffre. Qu'est-ce que vous faites?
Je vais tenter, j'adore le foot.
Un joueur.
Attention, on y va. La combinaison 2875ZF402.
C'est ton numéro de sécu?
Ouais. On y va, on ouvre. Putain, pardon. Dans le coffre, il y a une boîte.
Magnifique boîte.
Dis-le en allemand, s'il te plaît.
Alors, dans la boîte, il y a quoi?
Dans la boîte, mon cher Brahim, dans la boîte, donc c'est soit les AirPods, soit le super cadeau foot. Hein.
La télé et tout.
Avec
surprise. Moi, j'aurais gardé l'enceinte Marshall. Hein.
Le super cadeau foot.
Oh, bravo.
C'est le super cadeau foot, mon cher Brahim. Dedans, écoutez bien, vous avez la télé 170 cm. Avez la barre de son, la Xbox Series S, le four à mini pizza et le mini bar.
Oh, génial. Je suis trop ému là.
Ça représente quoi?
Et tout ça dans le même objet, on le répète.
C'est vraiment terrible.
Bravo, et dis
donc. C'est quoi ces 2-3 000 euros de
quoi? Les soirées foot vont être sympas chez vous.
Ah, génial, je suis très content. Merci beaucoup, merci l'équipe.
Attention avec les pizzas quand même.
Et Brahim, ça.
Le four à pizza, ça me fait bien, tremble, moi.
Attention, les pizzas.
Il l'a dit, mini pizza.
Il faut en faire 10 pour moi alors.
Ouais, ça cartonne les petits fours à pizza. Et ils sont écolos parce que c'est des petits fours à relais ou à petit éthanol et c'est vachement bien, quoi.
Olivier, fais gaffe à toi quand même.
Alors, Brahim, donc il faut avoir la place pour caler les 170 cm de la télé, la barre de son
contre le mur.
1m70 de télé?
Oui,
en diagonale.
C'est une télé qui est en diagonale.
Non, mais 1m70,
c'est bien parce que tu la vois.
Bravo.
Dans tous les cas, Brahim, félicitations. C'est le méga coup de bol du jour. Et puis vous pourrez jouer encore. Profitez-en. Salut Brahim.
Merci, à très bientôt. Merci.
Bravo.
Et bonne Coupe du Monde à l'écoute d'RMC, bien sûr. Allez, dans un instant, notre GG7 et match. Dissolution, oui ou non? On a une équipe, oui, une équipe, non. Et vous verbez arbitrer tout ça au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct comme tous les jours de 9h à midi, des grandes gueules que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont devant RMC Story, regarde, j'ai un magnifique avion.
Oui, très bien fait.
Notre productrice, Anaïs.
Ça ressemble à un Airbus, alors, à un Rafale plutôt.
Le problème, c'est que...
C'est l'avion de Bruno Pommard quand il fait du radada.
Alors,
c'est
ça, je vais demander à notre réalisateur Thibaut, est-ce que tu peux faire un plan large, s'il
faut
te plaît,
pas chauffer, parce que... la pointe un peu.
Oui,
on faisait ça, ouais.
Oui, à l'école.
Ouais, hein, on sait pas ça,
on va voir si l'avion en papier d'Anaïs vole bien.
Et c'est un avion écolo en plus.
2, 1, décollage, PNC à vos portes, désarmement des taupes.
C'est un naufrage.
C'était bien.
Voilà. Ça crache même.
Mais c'est la France.
La vache. Bravo Anaïs.
Oh,
tu viens de nous ridiculiser. Allez, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Donc, après 4-49-3 dégainés en 2 semaines, une majorité relative que l'on voit tanguer, ça va être compliqué pour elle de mener à bien tous ses projets politiques. Est-ce que l'exécutif envisage sérieusement une dissolution? Oui, si l'on en croit les infos du JDD, ce que conteste le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Quant aux oppositions Rassemblement National ou France Insoumise, NUPES, on est prêt, donc la dissolution, qu'en pense-t-il? Olivier Véran, Sébastien Chenu et Clémentine Autain. On écoutera les sons dans un instant. Donc allons-y directement. Continuons directement pour le match. Dissolution, oui ou non? On a une équipe,
sinon,
oui, Olivier
les imite,
et Barbara.
On peut imiter leur voix.
Une non, équipe, c'est pas facile à faire.
Une équipe, non, avec Charles et Bruno. Ma chère Barbara, c'est toi qui a le coup d'envoi. Une minute, c'est parti.
Alors, en effet, pourquoi oui à une dissolution? D'abord, les conditions d'élection d'Emmanuel Macron en mai 2022, on le sait, pose un certain nombre de problèmes. Il n'y avait pas de programme. Il a largement utilisé la guerre en Ukraine pour échapper au débat, et en particulier au débat sur son bilan. Ça a été une réélection par défaut qui a été corrigée de leur mieux par les Français compte tenu du scrutin majoritaire aux législatives, avec la NUP et le RN, on le sait, en position de force, qui donne une majorité très, 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 très relative à Emmanuel Macron. Et pourtant, Emmanuel Macron fait comme si il avait toujours les pleins pouvoirs, en méprisant absolument non seulement les oppositions, mais le Parlement. On le sait, les refus des amendements après des heures et des heures de débat et des amendements importants, taxer les super profits, mais surtout les 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments. Allez hop, je te fous du 49-3. Donc, comme Emmanuel Macron fait du 49-3 ou bien ne veut pas recourir au référendum, on va pas continuer comme ça pendant 5 ans. Il faut une dissolution pour que les Français donnent une majorité à la France. Et ça va être aussi l'occasion de mettre chacun devant ses responsabilités, tester la solidité de la NUP, mettre LR au pied du mur et enfin voir si le Rassemblement National est capable véritablement de gagner une élection.
Non, elle a dépassé le temps imparti.
Non, ouais, pas du
Charles, Charles pourra gagner 10 secondes. Allez, go Charles.
On vous les offre.
Non, moi je pense que on doit aussi essayer cette assemblée plurielle. Je pense que c'est intéressant que ça apprend un peu pour l'instant l'humilité aux macronistes qui en avaient bien besoin. Je pense par ailleurs que les mêmes causes produiraient les mêmes effets à peu de choses près et que si les Français retournaient aux urnes, il y aurait à peu près la même assemblée, si ce n'est qu'il y aurait peut-être un peu plus de RN et un peu moins de NUP et de Macron, surtout, et de Renaissance. Je sais jamais comment s'appelle leur parti vu qu'ils en changent tout le temps. Et donc, je vois pas très bien ce que ça apporterait. Je crois que c'est utile pour notre démocratie d'avoir un peu de débat et je suis heureux de voir qu'il y a un petit retour du débat et je trouve, pardon,
du débat, il y en a pas plus sur le 49-3.
Pardon de le dire, mais je trouve que par exemple moi à titre personnel je considère que les Républicains on se comporte assez bien dans cette assemblée, notamment quand Marleix dit ce matin qu'il va pas jouer l'avenir des Français à la roulette russe, etc.
Il y a tellement peur de perdre.
Non, ils vont voter ce qui est utile pour la France et ils rejetteront le reste. Moi, je pense qu'on peut faire l'économie de repartir encore dans une campagne furieuse qui aboutira au même résultat que la précédente, à mon avis, puisque on est trop proche de la dernière législative pour espérer attendre autre chose.
Je vois pas comment on peut réformer ce pays. Et on a commencé cette émission en parlant des services publics qui ne fonctionnent plus, qui nécessitent des réformes courageuses. C'est évident, c'est pas avec cette assemblée qu'on va y arriver, puisque Elisabeth Borne est obligée de dégainer le 49-3, même pour le budget de la Sécu. Bon, bref, donc on sait très bien qu'il y aura pas de grandes réformes. Donc soit on accepte que pendant 5 ans il se passe rien. Il va rien se passer.
Bah si, les réformes sont
chaque année, il y aura 49-3 pour le budget, mais il se passera rien. Parce que derrière,
il y a des lois qui ont été votées avec les LR.
Non, c'est des réformettes. Soit effectivement, les LR acceptent de gouverner avec Macron.
Voilà.
Ça va être c'est la finalité. Quand on voit les anciens socialistes de la Macronie tendre des mains aux députés LR, on se dit quand même les convictions en politique. On peut très bien les ravaler assez rapidement. Mais donc tout ça, c'est du tripatouillage. C'est là pour le coup, c'est très 4ème République.
Exactement.
Cette façon de tendre la main aux LR, c'est pas du tout la 5ème République. Pourtant, ceux qui défendent la 5ème République, c'est plutôt Renaissance et LR. Donc là, vraiment, on est à front inversé. Et si, et je pense que Macron, en plus, est en train de préparer les esprits à la dissolution. Il a bien, montré du doigt la NUPES, voilà.
Oui, il y a même ces journées qui ont fait un tour de France.
La semaine dernière, ils en ont fait des tonnes sur De Fournasse. La Renaissance était aussi vent debout que la NUPES. On voit bien qu'il y a une arrière-pensée de diaboliser aussi le RN et préparer les esprits en disant on va vers la dissolution et il faut voter Macron parce que finalement c'est le seul raisonnable et c'est le seul qui pourra faire des choses.
Et ce que Macron espère, c'est que les LR, ayant pris un petit peu le pouls de cette assemblée dans le peu de temps où elle a eu lieu et qu'ils voient très bien qu'ils sont eux-mêmes complètement clivés entre une partie des LR qui veulent servir uniquement de béquille à la Macronie, qui seront tout à fait d'accord pour aller bouffer à la gamelle de Macron, et de l'autre côté, une partie des LR qui, eux, sont un petit peu plus en phase avec la base et qui sentent bien que non, qu'il faut continuer à essayer d'être une force d'opposition, sauf qu'ils peuvent pas être une force d'opposition puisqu'il y a le RN à côté. Donc, la dissolution précisément, justement, Charles, pour LR, ce serait l'occasion aussi pour LR de clarifier. Parce que si LR joue ce jeu-là pendant 5 ans comme ça, LR à l'Assemblée avec 60 députés, un coup oui, un coup non, et je te vote jamais la motion de censure parce que j'ai trop peur. LR, au revoir, en 2027, ils n'existent plus.
Ils auraient dû voter la censure.
Macron, pour l'instant, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire, ça. On l'agite comme ça, hop, la dissolution, et puis pour faire peur à tout le monde. Personne n'a intérêt qu'il y ait une dissolution parce que tout le monde a peur de perdre leur poste, là. Parce que le nombre de NUPES qui est passé limite, à cette mandature, ça a été catastrophique. Et comme le disait Charles, merci.
Tu connais même même pas ton coéquipier.
Il y a quand même, non mais il y a quand même des priorités, c'est-à-dire gérer ce pays et mettre en place des réformes.
Il, géré,
il y a des commissions qui travaillent tous les jours, Si tu remets en place un vote, ça va être un bazar encore pendant 6 mois.
Bruno, t'es le premier à dire qu'il faut faire des réformes. Là, c'est l'immobilisme, forcément. Il va rien se passer.
La réforme de la police, elle se fait.
Il va rien se passer pendant 5 ans.
Moi, je vais même te
dire. La loi sur l'immigration, elle va se faire.
La loi sur l'immigration.
Mais si j'étais dans l'état d'esprit très cynique en général de la Macronie, je dirais qu'au contraire, il leur faut une dissolution. Parce que, en général, s'ils avaient à dissoudre et à être cohabiter, que ce soit à cohabiter avec Mélenchon, à cohabiter avec Le Pen, ils sont peut-être même sûrs qu'en 2027, ça se passera bien pour eux. Parce qu'on a vu que ce soit à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Chirac, un premier ministre de cohabitation,
il
s'en prend plein la tronche. Non, pas
oui,
Chirac.
Surtout,
parce que
ça.
C'était Balladur.
97.
C'était Balladur et Mitterrand, et Chirac était contre Balladur, donc c'est pas pareil.
Non, mais Chirac.
Mais Chirac n'était pas premier ministre, c'était Balladur qui était.
Non, mais Chirac a profité de la cohabitation pour
être élu. Il a pas donné des miracles.
Il a taclé Balladur.
Macron n'est pas dans la même situation.
Non, mais on n'est pas dans la même situation, mais attention. Attention, c'est pas forcément non plus un avantage d'être le premier ministre de cohabitation de Macron. Surtout que Macron est un homme extrêmement habile, extrêmement cynique, extrêmement manipulateur. Donc, il pourrait même retourner la cohabitation à son avantage. Donc, moi, je dis la dissolution, elle est nécessaire.
Parce qu'il s'agit aussi
pour les Français de donner une vraie majorité à ce pays pour que ce pays soit gouverné. Aujourd'hui, il n'est pas gouverné.
Vous perdez du temps avec votre dissolution. Ça ne sert strictement à rien. Le pays n'a pas besoin de ça.
Mais là, on va perdre 5 ans.
On est en train de déstabiliser le pays.
Tu ne penses pas qu'on va perdre 5 ans?
Mais non, pas du tout.
C'est que de la politique des faux débats.
Et si ça passe pas, ça passera par le
49-3. Des fausses polémiques, faux buzz. Un coup, c'est le RN qui hurle, l'autre minute, c'est les LFI qui hurlent.
Et ça va changer quelque chose?
Et ça n'avancera rien. Mais non, parce que justement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et ça met en plus LR dans une position d'indécision qui leur est préjudiciable.
Mais non, les LR se comportent très bien, je trouve.
Ah bah bien sûr. Macronie,
tu as compris la stratégie des LR? Moi, je n'ai toujours pas compris.
Mais ils votent intelligemment. Ils font de la politique intelligemment. C'est pas de l'opposition comme fait.
Donc c'est la quatrième république.
Mais toi, on a compris que tu voudrais que Macron gagne en maître absolu.
Je ne pense pas. Je pense qu'on observe maintenant Macron depuis un certain nombre de temps. On a vu, par exemple, comment il fonctionnait pour le Covid. Je ne pense pas que ce soit une menace en l'air. Je pense qu'ils étudient vraiment cette possibilité parce que je pense que lui-même sent bien à titre personnel que pour l'instant son quinquennat est mort, que lui-même n'a plus d'autorité, qu'il se dit oui mais moi je trouve quand même que prétendre à la fois mais on sera pas comme a dit Barbara, on sera pas un cynisme près, prétendre à la fois que tu luttes contre l'extrême droite, qui est leur truc mytho. Bon, Beaune a encore dit ce week-end, notre ennemi politique numéro un.
C'est un échec, puisque Marine Le Pen n'a jamais été aussi
l'extrême droite. Mais bien sûr, parce qu'en réalité, tout le monde a compris qu'en réalité, ils font tout pour faire monter l'extrême droite. Ils veulent simplement la maintenir sous la barre des 50% plus une voix. Mais en réalité, ils se sont démenés pendant 5 ans pour que le RN ait du vent dans les voiles, en réalité. Et donc, déjà, ça, c'était cynique. Mais là, alors que le risque de se retrouver avec une majorité RN est très important, je pense que si Macron allait jusqu'à dissoudre l'Assemblée, en réalité, il serait le marchepied de l'accession du RN au pouvoir. Donc, on serait quand même dans les stratosphères
cynisme. Je crois que Macron...
Il ne peut pas croire sérieusement aux chances de ces branquignoles de Renaissance d'avoir la moindre possibilité de gagner une majorité parlementaire.
Macron,
là, si on dit
ça, il travaille pour l'histoire. Macron, si vous voulez, il va pas se représenter. Donc, il travaille aussi pour la place qu'il va laisser dans l'histoire. Et Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, a une haute opinion de lui-même.
Non.
Et qu'est-ce qu'il va laisser dans l'histoire si pendant 5 ans, faute de majorité, finalement, il a fait des petites réformettes, il a pas pu vraiment changer le pays. Là, je pense qu'il a envie quand même de laisser une trace. Et effectivement, même si c'est une cohabitation, il pourra toujours se faire la cerise sur la cohabitation. Ça a profité, comme tu l'as dit, à tous les présidents cohabitants. Ils sont toujours sortis plus populaires à la fin de leur mandat.
Ça veut dire qu'en fait, ils veulent faire que pour sa gueule.
Bien sûr, mais t'as pas compris que c'était ça, la Macronie.
On va voir.
Tu découvres.
Pour le pays, le problème, c'était chaud.
Ça
profitera personne. Alors, on va voir où on en est, justement, maintenant. Dissolution, oui, 66-34 pour le moment. Donc, vous qui nous suivez, qui nous écoutez, vous êtes plutôt en faveur d'une dissolution, même à deux tiers, un tiers, et la discussion va continuer avec vous, bien sûr, au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec un GG 7 et match aujourd'hui autour de cette idée potentielle possible de dissolution. Tiens, je voudrais savoir, je m'adresse à la régie, on a les petites interviews là de messieurs Véran, Chenu et Clémentine Autain là qui sont dans, elles sont là. On peut les envoyer, on peut les écouter justement quand on leur pose la question de savoir si oui ou non les Français pensent à la dissolution. On va les écouter dans un instant. Le temps d'écouter Gérald qui nous appelle au 32-16. Bonjour Gérald.
Ministre de l'Intérieur. Oui, bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Alors Gérald, justement, on va écouter Olivier Véran, Sébastien Chenu et Clémentine Autain quand on leur pose la question de savoir si les Français pensent à la dissolution oui ou non.
Je pense que les Français ne le souhaitent pas. Je pense que les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces démarches d'accord transpartisans, d'être capable de sortir un peu des postures. Une dissolution, si vous voulez, c'est une alternative à un blocage complet du Parlement. Pour l'instant, nous n'avons aucun des stigmates de ce blocage.
Ça ne nous fait pas peur. Nous sommes prêts demain, lundi, s'il le faut, la semaine prochaine, le mois prochain. Nous sommes prêts, mais nous sommes prêts à partir en campagne, mais nous sommes prêts à gouverner le pays.
On est prêts, on a même le papier, vous voyez. Non seulement on a les idées, le projet, les candidatures, mais nous avons même stocké du papier en cas de dissolution précipitée.
Donc du papier qui servirait à éditer des affiches, des tracts et des bulletins de vote.
Exactement. Hein,
ah bah, tout le monde est prêt, cher.
C'est pas très écolo, là, le papier stocké.
Mon cher Gérald, vous avez vu, tout le monde est prêt. Vous êtes prêt aussi? Vous voulez une dissolution ou non? Gérald.
Pour être honnête, je ne pense pas qu'elle aura lieu. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça et quel serait réellement en fait son intérêt. Aujourd'hui, qu'il gouverne avec une majorité ou qu'il gouverne avec un 49-3, c'est la même chose. Après, il aurait réellement tout à perdre, à moins qu'il connaisse déjà les résultats, parce que pour être sûr de pouvoir dissoudre l'Assemblée et avoir une majorité, ça me semble très bizarre. Après, je vous invite sincèrement à regarder par rapport à sa cote de popularité justement. Il y a un très bon billet qui était sorti du Télégraphe, un journal en fait anglais. Donc ça vous dit un petit peu ce que pensent aussi les journalistes étrangers de notre pays et surtout de la décadence en fait d'Emmanuel Macron et de la manière dont il dirige en fait le pays. Donc c'est-à-dire par les dettes, par la violence, par son état régalien en fait qu'il n'arrive plus à mettre en place en fait et à faire respecter aussi dans notre pays. Très honnêtement, je ne le vois vraiment pas faire ça, il aurait tout à perdre. Après cela dit, quand Véran dit quelque chose, généralement ça serait l'inverse.
Gérald, il y a une hypothèse.
On ne dit pas si c'est ce qu'il a intérêt à faire. On dit est-ce que c'est ce qu'il faut pour la France.
Il peut avoir intérêt à le faire, par exemple, pour lever l'hypothèse Marine Le Pen, puisque il est coutume de dire que Marine Le Pen, en 2027, aura toutes ses chances, ça sera peut-être la future présidente. Peut-être que si dissous là, il y a des chances que le Rassemblement National obtienne une majorité. Il nomme Marine Le Pen à Matignon, eh bien, il lève l'hypothèse de Marine Le Pen à l'Élysée. Il l'épuise, en général, la cohabitation tue le Premier ministre, et comme ça, il libère 2027 de cette hypothèse Marine Le Pen. Alors, bien sûr, c'est un calcul très cynique, mais c'est un calcul que tout à fait possible.
Ça serait vraiment, pour être honnête, ça serait vraiment incroyable. Évidemment que tous les Français aujourd'hui souhaiteraient la dissolution pour pouvoir mettre leur parti en valeur, que ça soit la NUP, les LR.
C'est pas sûr que les Français souhaitent vraiment, mais les Français, ils pensent pas à ça. Ils pensent plutôt à leur facture électricité.
Allez-y, Gérald.
Ils iront voter, déjà, est-ce qu'ils iront se déplacer? Parce qu'en fait, il faut savoir que les législatives, quand vous faites une dissolution, le délai, je crois que c'est 3 semaines de préparation.
C'est
voilà, c'est très très court. Donc pour faire campagne, faut être vraiment avoir les reins solides et derrière vraiment se préparer. Et je vois vraiment mal à l'heure actuelle les Français se déplacer pour aller voter. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis, mais on verra ce que nous dire la suite. Quoi.
Merci. Moi, beaucoup. Je pense qu'au contraire, dans un temps de crise comme celui que nous traversons, où il y a énormément d'impasses, que ce soit des impasses économiques, des impasses budgétaires, des impasses environnementales, les Français sentent bien que là, on danse sur un volcan et qu'on va pas pouvoir continuer à marcher sur ces espèces de lignes de crête complètement dangereuses pendant 5 ans. Ils le voient, on le voit là, on est à combien? On est à peine à 4 mois de vie parlementaire et encore, il y a eu l'été au milieu.
Ça fait 10 ans.
Et c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête. Les Français sont dégoûtés et précisément, si tous les partis, et je parle pas seulement de Renaissance, mais la NUP, le RN, LR, veulent aussi que les Français soient moins dégoûtés de la politique, qu'ils acceptent justement de retourner sur le terrain et d'essayer enfin de donner à ce pays une majorité. La 5e République, elle est faite pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée, pour qu'on puisse gouverner avec un gouvernement qui ait non seulement un poids politique, mais une forme de légitimité et un programme. Le programme, on n'en avait pas déjà, il s'est fait lire sans programme, donc ça c'est pas grave. Mais là, on va gouverner avec un parti qui n'arrive même pas à prendre les amendements du MoDem. La taxe sur les super profits, c'est un amendement du MoDem. Même ça, ils n'en sont pas capables, alors que le MoDem, c'est leur partenaire. Faut qu'il arrête de rigoler, Véran, quand il nous dit des négociations transpartisanes. Ils font bosser les parlementaires jusqu'à 4 heures du matin pour leur dire, finalement, on prend rien, on prend que les amendements de Renaissance. On se fout de qui? Les Français voient bien qu'aujourd'hui, c'est un déni de démocratie ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, on retourne aux urnes.
Et ça ne changera rien, Barbara.
Si on ne retourne pas aux urnes, ça peut être la révolution.
C'est fini, mais le temps des grands partis, tout simplement, une majorité absolue comme l'a eu la Renaissance,
mais surtout,
au premier mandat, c'est fini.
Il n'y aura plus de majorité
absolue. Maintenant, la société actuelle, elle est comme on la voit représentée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec des partis diffus, 80 par-ci, 80 par-là, etc.
Et ça ne changera rien. Vainqueur de ces législatives. Est-ce que vous pensez, parce que en vrai, quel est le parti qui a en ce moment le vent en poupe là,
à l'heure où
on parle? La semaine prochaine, ça peut changer. En politique, ça change d'une semaine à l'autre. Mais pour l'instant, c'est le RN. Ils ne l'ont pas suffisamment non plus pour avoir, je suis désolé, une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale. Donc en fait, tout ce que vous aurez, à mon avis, vous aurez, ce sera presque pire entre guillemets, c'est que vous aurez un Renaissance en fait un peu plus faible, avec un RN un peu plus fort, mais ça ne changera rien. Il y aura même plus les conditions à peu près minimal qu'il y a là pour l'instant pour gouverner. Alors certes, moi je suis d'accord que l'Assemblée est devenue un cirque, les Insoumis ont installé une ZAD dans l'hémicycle, LR est en dépression nerveuse, le RN ne fait rien parce qu'ils veulent avoir l'air présentable, etc. Mais enfin,
et Renaissance a pas
été quand même, on verra par exemple, on verra si cette fameuse réforme des retraites qui semble être le truc auquel tient le plus ce gouvernement en ce moment.
La réforme vraiment annoncée.
Bon, oui. est-ce qu'ils vont réussir ou pas à faire passer cette réforme? Moi, je pense qu'ils y arriveront avec le soutien probablement de LR.
Grâce à la béquille.
Mais parce qu'on est en ultra-patouillage.
Mais c'est pas du ultra-patouillage. Il faut bien la réalité de l'Assemblée nationale.
Les retraites, les gars. Il faut bien réformer notre. Il faut bien faire en sorte de pérenniser notre système de retraite. Moi, je suis pour un con. Moi, je suis pour un système totalement réformé, beaucoup plus réformé, avec un âge beaucoup plus lointain, la suppression de l'intégralité des régimes spéciaux. Je suis pour une réforme comme ça. Mais en tout cas, il faut bien faire quelque chose pour continuer à verser aux gens leur pension de retraite.
Alors, je crois que les Français, d'abord, le débat, c'était pas sur les retraites. Et en plus, je crois pas que les Français sont favorables à la réforme des retraites. Peut-être que LR, et encore une branche de LR est d'accord, et bien entendu Renaissance, mais je pense que le reste des Français, dans tous les sondages, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Macron, il marche sur des œufs, parce qu'il sait très bien que pour l'instant, la réforme des retraites telle qu'elle est présentée n'a absolument pas l'adhésion des Français. Et encore une fois, tu prévois, je suis d'accord avec toi, moi, je vois pas comment le Rassemblement national passerait de 89 à la majorité, mais je te rappelle que on pensait que, ils auront peut-être 15 députés, et avec le scrutin majoritaire à un tour, ils ont, à uninominal, ils ont réussi à faire 89.
Des retraites est totalement à contre-courant. On est en train de débattre de la grande démission, du fait qu'on n'arrive plus à fournir du boulot aux gens parce que les gens veulent du sens du travail. On leur explique qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Cette réforme des retraites qui a été faite ailleurs, je suis d'accord, en Allemagne, etc., arrive trop tard chez nous, est complètement à contre-courant. Et là, pour le coup, il n'est pas du tout intuitif, Macron. Je pense qu'il n'a pas du tout senti le pays. Je pense que le pays, pour X raisons, n'est pas du tout prêt à accepter cette réforme.
Le pays veut déjà retrouver un cap avant qu'on commence à lui dire de bosser.
Le vote des lois maintenant à l'Assemblée nationale ne passera que par des compromis, comme on l'a vu là. LR qui s'associera.
Mais il n'y a pas de compromis.
Mais si, ils y arrivent.
Il n'y a pas de compromis. Quand le MoDem propose,
je remercie Gérald d'avoir été avec nous. De l'Hérault, on va aller vers la Charente maritime. On va aller vers la Charente maritime retrouver Serge. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez entendu, Gérald, n'y croyez pas, il n'est pas tellement pour une dissolution. Et vous, mon cher Serge ?
Alors, moi, j'y crois. Moi, j'y crois tout simplement parce que le président Macron a tout à gagner. Il y a deux hypothèses. Ou effectivement, il se dégage une majorité à la suite de ces élections, de cette dissolution. Ou alors, Marine Le Pen, comme vous l'avez très bien dit, Marine Le Pen est Premier ministre, elle s'épuise et c'est peut-être quelqu'un qui est de Renaissance qui prendra la suite de Macron. Je pense qu'il a tout à gagner parce que, alors, pour une raison très simple, c'est qu'il faut absolument qu'on se débarrasse tout de suite de la NUPES. Le plus possible. C'est ingérable. Moi, je suis limousin originaire de gauche, mais je veux dire, ces gens-là ne respectent rien. Oui. Quand j'ai vu l'hystérie qui a élu l'autre jour au sujet de l'absurdité, effectivement, qu'a dit le député du RN, Mais que ce qu'on en a fait, c'est invraisemblable. C'est ce que les Français ne veulent pas. Alors les Français, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la chance à tout le monde. Mais il y a tellement, c'est tellement le bazar. Mais
Donc vous dites que la NUPES serait la grande perdante d'une dissolution?
Ah ben je le souhaite vivement, parce que la NUPES, c'est quelque chose qui a été construit. Il a été très fort, Mélenchon, il a construit quand même sur ce coup-là. Ben,
ça a permis notamment à des socialistes de sauver leur siège.
Hein. Mais il y en a beaucoup qui sont passés limite aussi, hein, à la NUPES. Oui,
sauf quand même qu'entre un socialiste, un LFI et un écologiste, ils ne pensent pas du tout la même chose.
Oui,
la
mais grâce à cette alliance, ils ont réussi à avoir un groupe qu'ils n'auraient pas eu sans alliance.
Complètement, mais ça ne marchera pas deux fois. Ouais. Ça ne marchera pas deux fois. Moi, je vous le garantis. Alors, je vous dis, il a tout à gagner. Parce que c'est ingérable, c'est insupportable, ces gens sont irrespectueux, ces gens font n'importe quoi. Donc, il faut absolument, avec ce coup-là, je vous dis, il est gagnant-gagnant, de toute façon, c'est sûr. Ou alors, il gagne, ou alors, c'est Marine Le Pen qui prend un ministre, et puis on voit bien ce qui se passe quand on est Premier ministre, on ne peut pas être président de la République derrière. Donc, bravo, ouais, monsieur Macron, s'il le fait. Et puis aussi. Moi, je suis convaincu que ça marchera.
Donc, c'est gagnant pour Macron.
Par contre, Serge, attention.
Gagnant pour Macron.
Par contre, Serge, attention à une chose.
Calcul qu'il fait, hein.
Et si Marine Le Pen était première ministre maintenant, elle aurait quasiment un quinquennat, parce que 4 ans, c'est
un peu
énorme.
Comme Jospin.
Elle pourrait aussi avoir le temps de conduire une politique qui pourrait plaire aux Français, parce que.
On n'en sait
rien. Vous n'en savez rien non plus. Comme dirait l'autre, c'est justement celle qu'on n'a jamais essayée. Et c'est bien ça aussi son argument, hein, c'est de dire moi, on m'a jamais essayé.
La conjoncture n'est pas très bonne. Hein.
Mais
il n'y a rien qui est bon.
Attention.
Barbara vous dit quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, moi, je n'ai jamais voté pour le RN. Jamais. Je pense que je ne voterai jamais pour le RN. Mais si vous dites qu'elle fait une politique qui plaît aux Français, il est où le problème?
Dans une démocratie,
si les Français, si dans 4 ans les Français disent elle a été formidable Marine Le Pen et on la met au sommet de l'État, et il est où le problème?
C'est la démocratie. Et justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un déni de démocratie, et donc il faut avoir le courage de la démocratie. Ce courage, on ne l'a plus depuis bien longtemps.
Donc on est d'accord là-dessus, mais je pense qu'on a peut-être pas les mêmes idées sur les résultats, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et moi, je suis à peu près convaincu que M. Macron est un homme extrêmement intelligent, extrêmement brillant, et il a tout compris. Et en plus, il a raison. Il a raison de jouer ça, parce que de toute façon, la NUPES...
Le cynisme, c'est pas de l'intelligence.
Il y a eu plus con dans le passé, si je peux me permettre.
Il y a eu plus intelligent et moins cynique quand même.
De Gaulle était moins cynique, excusez-moi.
Il faisait de la politique aussi.
Merci Serge, c'est vous qui aurez conclu la discussion, mon cher Serge. On va y aller sur le résultat de la discussion. Dissolution. Ah, vous avez même gagné un point. Oui à 67%.
Comme quoi Véran se trompe. Véran dit les Français n'ont pas la tête à ça.
Je rejoins ce que disait Gérald. Quand Véran parle, il faut penser l'inverse.
Si je dois prendre un avocat, je ne prendrai pas consigne, c'est sûr.
Ah, pas Véran non plus. Hein.
Allez, on se retrouve demain. Demain, nous serons avec Joël Dagosséry, coach de vie, avec l'agriculteur Didier Giraud, avec l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.